Eh bien, bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse. En plein soleil, je suis en manche courte, je me balade comme ça, c'est magnifique, ça fait plaisir, ça fait du bien. Nous avons des nouvelles de notre frère Philippe, qui est toujours en Guinée et qui travaille là-bas pour le Seigneur, à la restauration d'une école et à opération aussi de forage, mais il fait aussi un film et des photos pour promouvoir le travail qui est fait là-bas au profit de l'association Emmaüs. Vous connaissez l'histoire de l'abbé Pierre. Nous ne sommes pas sectaires. Nous aimons bien travailler et fréquenter les gens qui sont gentils, qui sont ouverts, qui font quelque chose de valable. Et on est content. Hier, il m'a écrit que il y a un imam là-bas, et c'est lui qui traduit toujours Philippe. Et il est très étonné de voir que Philippe rend gloire à Dieu tout le temps, et pour toutes choses. Et ils ont rencontré un homme qui avait une main enflée et qui souffrait terriblement. Et Philippe a prié, et l'imam a interprété la prière au nom du Seigneur Jésus-Christ, et la douleur a quitté cet homme. Gloire à Dieu. Amen. Enfin, il sentait presque plus. Juste la main était gonflée et ça tirait un peu, mais cette douleur intense a disparu. Gloire à Dieu.
Amen.
Et alors, c'était le chef des imams du coin là-bas, c'est bien. Vous voyez, on n'est pas sectaire. Gloire à Dieu, c'est bien. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on se convertit à l'islam ou au catholicisme ou au mormon ou à quoi que ce soit, mais on aime fréquenter les gens qui font quelque chose de bien. On a chanté « Je chante à mon sauveur des louanges d'amour qui viennent à mon cœur ». Il est clair au long de mes jours de sa vraie lumière. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin dans la connaissance des noms de Dieu. Vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu se présente sous 7 noms qui sont des noms rédempteurs, les noms du Dieu qui nous rachète. Et j'ai déjà prêché sur 6 noms et aujourd'hui on va prendre le dernier. Mais je pense que c'est tellement intense que je vais y revenir encore, parce que ce nom est très puissant. On est donc arrivé à la fin de cette série d'enseignements, mais je pense que je vais faire une autre série juste au sujet de ce nom-là. Alors, on va lire dans un premier temps Exode, chapitre 17, versets 15 à 16. Exode 17, 15 à 16. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel, ma bannière ». Il dit « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Amen. Amen. L'Éternel est ma bannière, mais c'est aussi, ça peut être traduit par l'Éternel est ma victoire. Jéhovah Nissi. L'Éternel, ma victoire, notre victoire. La main de l'Éternel agit au travers de nous. Il faut toujours se rappeler de cette chose-là. Et comme les ennemis de Dieu ont levé la main contre l'Éternel, eh bien, il y a une guerre. Et cette guerre dure depuis des générations, elle durera jusqu'à la fin. Je ne vais pas vous faire un dessin vous expliquant qui sont les Amalécites. On sait tout simplement qu'ils viennent d'Ésaü. Et vous savez, l'histoire d'Ésaü, vous connaissez comment Dieu avait choisi son frère, mais pas lui. Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Il connaît les gens, il sait qui sont de lui, qui n'est pas de lui. Il faut savoir, hein, dans Matthieu 13, il est dit, il y a deux semences. Il ne faut pas se voiler les yeux, il y a deux semences. Et vous avez une semence du diable et une semence de Dieu. Et il y a une guerre entre la semence du diable et la semence de Dieu. Une guerre qui durera toujours, jusqu'à la fin. Alors, ces gens-là vivaient dans le désert sud-palestinien et c'est à Kadesh que les Juifs les ont rencontrés pour la première fois. Et depuis, ben, ils ont une relation hostile avec Israël et ça continue aujourd'hui, mais Dieu est notre victoire. Hier soir, on a regardé un excellent film, c'est vieux. Hein. La première fois que je l'ai vu, c'était en 71 à l'école biblique, c'est pour vous dire. C'est un film de Billy Graham qui s'appelle « Son pays ». Et c'est une vieille vidéo que j'ai qui est vraiment pas... Je vais essayer de racheter le film, je ne sais pas si ça se vend toujours, mais c'est magnifique, ça montre tous les exaucements, enfin toutes les réalisations des prophéties données par les anciens, comme Ésaïe, Sophonie, Jérémie et tous ces gens-là qui expliquent comment Dieu va disperser son peuple dans les nations, mais comment il va les ramener dans leur pays. Ils parleront de nouveau la langue hébraïque. Enfin, c'est un film magnifique qui montre aussi comment le désert a refleuri, parce que quand les Juifs sont arrivés là-bas, c'était un désert insalubre. Et là, maintenant, c'est quelque chose de magnifique. Avec Michou, on a visité Israël, on était très, très impressionnés, vraiment très impressionnés. Et on ne peut pas faire autrement que de dire c'est Dieu qui a fait ça. Bien sûr que c'est eux qui ont travaillé, ils ont bossé, ils ont sué. Mais si Dieu n'était pas derrière, on ne connaît pas l'histoire d'un pays qui 2500 ans après revient de nouveau, renaît, un peu comme le phénix qui renaît. Et puis qui parle de nouveau sa langue d'autrefois, une langue qui n'était plus du tout parlée. C'est un miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc le peuple de Dieu a toujours eu un ennemi juré, et l'ennemi d'Israël est également l'ennemi de l'Église de Jésus-Christ, il faut le savoir. Il y a 245 millions de chrétiens qui sont fortement persécutés sur notre planète à l'heure actuelle. Il faut le savoir, il faut le dire, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Ça veut dire qu'il y a un chrétien sur neuf qui est persécuté, fortement, pas des chrétiens à qui on dit « Oh, t'es un imbécile parce que tu crois en Jésus ». Non, c'est des gens qui, à cause de leur foi, sont persécutés, massacrés, torturés, emprisonnés. C'est épouvantable, un sur neuf. En 2018, j'ai les chiffres de 2018, je n'ai pas encore les chiffres de 2019, mais 4305 chrétiens ont été massacrés. Je ne dis pas ont été blessés, non, ceux qui ont été massacrés, 4305. 3500 sont encore détenus dans des conditions épouvantables en raison de leur foi. Il y a principalement 11 pays où les chrétiens sont terriblement persécutés et 8 d'entre eux sont islamistes. 64% des pays persécuteurs des chrétiens sont islamistes. Alors, on vient nous dire que c'est une religion de paix, moi j'aimerais bien avoir la preuve. J'aimerais bien avoir la preuve. Alors, il faut dire ces choses-là, il faut le dire parce que ça existe et nous devons être témoins de ce qui se passe dans notre temps. On ne peut pas simplement se réunir, chanter des cantiques, taper des mains, dire « Alléluia, les choses sont gras, tout va bien, vous êtes heureux, oui, oh, c'est merveilleux !» Non, il y a des chrétiens, dimanche passé, ils sont bien habillés, ils sont allés à l'église au Burkina Faso, dans une église du nord du pays, et ils ont été massacrés, 26 personnes ont été tuées. Voilà. Nous, ça risque pas de nous arriver, on est bien là, on est tranquille, on ne se rend pas bien compte. Mais il faut penser à ça. Il faut prier pour ces gens-là qui sont persécutés comme ça. Mais il faut surtout dire aussi que l'Éternel est notre victoire. Vous savez, il m'arrive souvent de regarder des vieux films, comme par exemple hier soir, on a regardé Son pays. Mais il m'arrive aussi de regarder d'autres vieux films. Et puis, c'est marrant, quand on regarde des vieux films, on ne se rappelle pas forcément les détails, mais on connaît la fin. Ça ne vous fait pas ça, vous? On sait comment ça finit. Bénur, on sait comment ça finit. Voilà, tout ça, on connaît la fin. Eh bien, mes frères et sœurs, grâce aux prophéties bibliques, nous connaissons la fin de cette histoire. On sait comment ça va finir. Dieu est notre victoire. Et Dieu est la victoire d'Israël. histoire que les Juifs ont vécu et vivent encore, eh bien le peuple chrétien la vit aussi. Si les Juifs ont été dispersés comme ça, il y a une raison. Et si les chrétiens sont persécutés comme ils le sont, il y a aussi une raison. Les chrétiens sont actuellement dans une apostasie. Ils se vautrent dans une apostasie épouvantable. Alors évidemment, ce sont toujours les plus faibles qui sont attaqués, parce que le diable est un lâche. Hein. Ce n'est pas forcément ceux qui sont dans l'apostasie à fond qui sont attaqués. Mais le diable voit les chrétiens comme un corps. Et il attaque toujours ce qui est le plus faible. Des pauvres grand-mères, des pauvres jeunes, des pauvres personnes qui vont au culte. J'ai vu leurs églises, hein, j'y suis allé souvent. Et plusieurs d'entre vous, vous avez visité les églises en Afrique. Très souvent, c'est des piquets de bois avec de la paille dessus. Puis ils se réunissent là pour avoir un peu d'ombre. Et puis, voilà, c'est quelque chose de terrible. Ben. Voilà. Ou alors des murs en torchis avec des tôles dessus. Et il n'y a des fois même pas de banc. Il n'y a pas de banc. Je me rappelle à Kikilma, la première fois qu'on est allé, il n'y avait pas de banc. Il y avait des troncs d'arbres par terre, les femmes s'asseyaient dessus, et les hommes aussi sur des pierres qui étaient là. Et j'avais fait un don à Nicolas Savadogo, et il a été faire des bancs secrètement, et la nuit il est venu avec une camionnette et il a posé les bancs. Dans la nuit du samedi au dimanche, il a posé doucement les bancs dans l'église, et quand les chrétiens sont arrivés, il y avait des bancs dans l'église. Alors c'était quelque chose d'extraordinaire. Je crois que c'est la première œuvre humanitaire qu'on a fait en Afrique, ça. C'était il y a 20 ans, quoi. Alors actuellement le peuple chrétien en majorité se vautre dans l'apostasie, et seul un petit reste est fidèle et prie devant le trône de la grâce, et nous savons que nous sommes en guerre. Nous, les vrais chrétiens, nous savons que nous n'avons pas à utiliser les armes humaines. Ne croyez pas que je vais vous parler, ne pensez pas, ne transformez pas mes paroles, ne dites pas que je dis de prendre les armes puis d'aller massacrer les gens, pas du tout. Nous avons d'autres armes, les armes de Dieu, elles sont redoutables. Nous avons des pouvoirs que l'ennemi ne connaît pas. Nous avons des pouvoirs. Mais le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ignorent qu'ils ont des pouvoirs. Ils l'ignorent parce que il n'y a pas grand monde qui enseigne ça. Maintenant, si vous allez dans les églises, on vous enseigne la prospérité, l'abondance. Mais on ne vous enseigne pas comment être armé pour pouvoir aller dans cette guerre spirituelle. Cette guerre spirituelle qui se passe ici-bas, sur cette terre. Et nous sommes appelés à y prendre part, de façon défensive, mais aussi de façon offensive. Nous sommes appelés à mener une guerre contre la chair, d'abord la nôtre, et contre les puissances occultes, les puissances ténèbres, tout en étant des porteurs de paix. Alors vous voyez, on doit faire vraiment un grand écart. On doit être souple dans la vie chrétienne. Si on n'est pas souple, si on est rigide, on casse. Il faut être souple, il faut faire un grand écart. Porteur de paix, mais on fait la guerre. C'est quand même bizarre, c'est spirituel. Nous avons apporté, nous dit la Bible, le bouclier de la foi. Alors c'est une très belle image. C'est écrit que nous avons apporté le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Mais pour éteindre les traits enflammés du malin, il ne suffit pas d'avoir un bouclier posé dans un coin de son salon puis rester à regarder The Voice. Les flèches de l'ennemi, on ne risque pas de les recevoir si on est des planqués. C'est quand on va au combat. Et les flèches de l'ennemi, elles sont venimeuses. Il y a un venin dedans qui s'infiltre dans nos pensées, dans nos sentiments, dans la volonté aussi des chrétiens. C'est un venin qui soit les endort, soit les fait apostasier encore davantage. Notre foi, elle doit être basée sur les paroles que Dieu nous a données et qui se trouvent dans la Bible et qui nous permettent de combattre sans crainte. Jésus, il est allé dans le désert, poussé par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable. Vous trouvez ça dans Matthieu 4, dans Luc 4. Tout ça, c'est des vérités. Jésus devait passer par là. Et nous aussi, on doit passer par là. On doit le rencontrer face à face et se battre contre lui, contre l'ennemi. Le Saint-Esprit veut aussi que nous allions sur le terrain de l'ennemi pour le terrasser, pour le vaincre. Jésus, au désert, il a vaincu Satan alors qu'il était en train de jeûner. Il était donc physiquement affaibli, mais spirituellement, c'est ça qui compte, c'est une guerre spirituelle. Alors, on n'y va pas sans bouclier. Le bouclier, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu qui est dans les Écritures, pas la foi en Dieu qu'on vous raconte dans les églises. Des fois, la foi de... Bon, je ne veux pas encore dire du mal des religions, mais c'est tellement stupide que... Ça me fait mal au cœur de voir qu'il y a des gens qui persistent encore tous et toujours à avoir une espèce de foi dégoulinante de bons sentiments, mais fausse, parce que pas scripturaire, pas biblique. Le seul livre que Dieu nous a donné pour pouvoir connaître sa volonté, c'est la Bible. Et la Bible a été interdite pendant 400 ans par l'Église catholique. Et maintenant, quand vous donnez une Bible à une vieille personne, elle vous dit « Non, 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 on n'a pas le droit. » Si vous avez le droit de lire la Bible, lisez la Bible, apprenez les choses que Dieu promet. Apprenez les choses, c'est important, c'est important. Sinon, ben, vous êtes toujours vaincu, vous êtes toujours en train de vous traîner, il y a toujours des problèmes difficiles, et que vous ne savez pas comment résoudre, vous priez, puis ça ne marche pas, il y a toujours des... Enfin bon, le Saint-Esprit veut que nous allions... sur le terrain de l'ennemi, mais armé avec la parole de Dieu, avec ce bouclier qui est la foi dans les paroles que Dieu a dites. Et nous devons être offensifs. On ne doit pas attendre que l'ennemi vienne frapper à notre porte. Il faut aller l'attaquer. Au nom de Jésus, Camélia disait, je te mets aux pièces détachées. Elle c'était une femme qui était dans le combat. Quand elle nous racontait, quand elle a été témoignée pour Jésus pendant la guerre d'Algérie, fallait le faire quand même, hein. Elle aurait pu dire non, ben c'est un pays en guerre, j'allais prêcher plutôt, je sais pas, chez les Esquimaux ou non. Là, et elle dit. Qu'elle a vécu des choses extraordinaires. Je me rappelle un fait, entre autres, elle était en voiture avec un pasteur qui la conduisait pour aller prier pour des malades, et voilà, tout à coup, il y a des gens qui sont sortis de derrière un talus avec des armes, ils voulaient les massacrer. Et Camélia est sortie de la voiture, elle leur a parlé en langue, dans la figure, comme elle dit. « J'aurais parlé en langue dans la figure !» elle disait. Mais avec force et avec autorité. Et ces hommes sont partis en courant comme s'ils avaient vu le diable. Et le pasteur qui était dans la voiture dit, mais Camilla, je ne savais pas que tu parlais arabe. Puis elle dit, mais je ne parle pas arabe. Elle dit, mais tu leur as parlé en arabe de la gloire de Dieu. Et tu leur as dit, si vous touchez un seul des cheveux de ces hommes et de ces femmes qui sont dans cette voiture... La main de l'Éternel est contre vous. Et ils ont eu peur, c'est pour ça qu'ils sont partis en courant. Elle dit, ah bon, je ne savais pas. Elle a parlé en langue, vous voyez. Alors, il y en a qui se moquent du parler en langue, des grands malins, hein, qui se moquent de ça. Continuez à vous moquer, c'est bien. Ça vous identifie, comme ça on voit qui vous êtes. Nous, on croit ce que la Bible dit. Amen. Et on le vit. Et on peut aller au combat avec fermeté. Alors, nous nous levons parce que certaines personnes se sont levées contre Dieu. Alors nous nous levons aussi et nous avançons face à l'ennemi avec l'épée de l'esprit. On va dire Hébreux 4, 12. Ça vous intéresse tout ça? Hébreux 4, 12. Où est-ce qu'il est Hébreux? Hébreux 4, 12. Voilà ce qui est dit là. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure, moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Nous devons avoir un bouclier, mais nous devons avoir aussi une épée. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Quand on parle la parole de Dieu, ça fait toujours un effet. Toujours. La parole que nous prononçons, pas seulement la parole de Dieu qui est écrite, mais la parole que nous prononçons par la foi. Chaque fois que vous témoignez de votre foi en Jésus-Christ, vous faites des ravages dans le camp de l'ennemi. C'est pourquoi nous témoignons. C'est pourquoi nous invitons des gens. C'est pourquoi nous allons vers les gens. C'est parce que nous voulons témoigner. Nous sommes un témoignage visible, vivant, en tant que communauté, mais nous sommes aussi un témoignage qui parle. Et nous faisons des ravages dans le camp de l'ennemi. On déstabilise ceux qui sont dans l'erreur et on leur donne la possibilité de revenir dans le droit chemin. Toujours avec amour, parce qu'on fait le grand écart. Hein. On se bat, mais toujours porteur de paix. Et la parole de Dieu que vous prononcez, elle est efficace. Jésus, il guérissait par sa parole. D'abord, il nous a dit que c'est par sa parole qu'il a tout créé, dans Colossiens 1, 15, je crois. Ensuite, par sa parole, il guérissait. La Bible nous dit, il envoya sa parole et les guérit. Donc, la parole a un pouvoir positif, mais elle a aussi un pouvoir négatif. Jésus a maudit un figuier. Boum. Vous comprenez, on a des pouvoirs. Il faut les utiliser à bon escient. Il calme la tempête aussi, par sa parole. Il parlait aux éléments. Je me rappelle, ça m'est arrivé souvent, Nicolas qui va venir là le 6, je vous annonce un scoop, là il vient le 6 mars, eh bien il pourra vous rendre témoignage de choses extraordinaires qui se sont produites en Afrique. Comment est-ce que, par la parole, j'ai stoppé un orage, tout le monde était stupéfait. On peut faire des choses extraordinaires par la parole, en parlant les paroles de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez le pouvoir de changer le cours des choses en prononçant les paroles de foi contre vos ennemis, contre la maladie, contre les gens qui vous veulent du mal. C'est négatif pour eux, mais c'est positif pour vous, et c'est positif aussi pour ceux que vous aimez, pour vos familles. Jéhovah Nissi, l'Éternel est notre victoire. Paul allait jusqu'à livrer certaines personnes au diable en vue de leur salut si c'était possible. 1 Corinthiens 5:5. Il exerçait son pouvoir. Ça peut paraître négatif de livrer quelqu'un au diable. Ah, ben, il y en a, c'est tout ce qu'ils méritent. Hein. Il y en a, c'est tout ce qu'ils méritent. Vos paroles sont créatrices de victoire pour vous et de défaite pour l'ennemi. Mais encore faut-il utiliser ce pouvoir que vous avez. On va lire Proverbe 18, 21. Beaucoup de gens n'utilisent rien du tout. Ils font que des prières, des marmonnes, des trucs. Proverbe 18, 21. Écoutez ça. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous vous rendez compte? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Votre langue, c'est plus fort que la mort, c'est plus fort que la vie. Vous dites une chose, elle arrive. Vous lui dites au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes vainqueur, et l'ennemi est vaincu. Selon cela, vous devez affirmer des vérités bibliques, pas n'importe quoi. Vous ne pouvez pas dire les mots de Dieu que vous ne connaissez pas. Vous devez connaître les mots de Dieu que vous avez à dire. Si vous ne les connaissez pas, vous êtes déjà dans le camp des vaincus. Vous devez donc prendre... connaître les vérités bibliques pour pouvoir guerroyer victorieusement. Je me rappelle, il y avait une vieille sœur en Suisse qui s'appelait Hilda Baumann. Elle disait toujours, mais il faut prendre la victoire. Bien sûr, elle avait raison, il faut prendre la victoire. Ça se prend une victoire, c'est pas un machin qui nous tombe dessus par hasard. Hein? Lorsque les chrétiens connaîtront vraiment qui est Jésus, ce qu'il a fait pour eux et ce qui leur appartient maintenant, alors, l'Église sera vainqueur. Mais pour le moment, l'Église, elle ronfle, elle dort. Et si elle fait une action, c'est juste celle de se chicaner les uns les autres. Entrez dans la victoire de l'Éternel. Battez-vous avec Jéhovah Nissi, avec l'Éternel, votre victoire. Amen. La défaite de Satan, elle lui a été infligée par Jésus. C'est Jésus qui a infligé la défaite à Satan. Jésus est notre substitut. Et la défaite de Satan, elle a été créditée à notre profit. Nous devons le savoir. Alors, parlez avec autorité à la maladie, aux problèmes, aux difficultés qui se trouvent sur votre chemin. Vous en avez le droit, vous en avez le pouvoir. Parlez. Parlez aux éléments. Ils doivent se soumettre. Tout se soumet au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas y aller. Non, il faut y aller avec autorité. Il n'y a pas besoin de gueuler, mais parler avec autorité. Quelqu'un qui a de l'autorité, le diable, il le reconnaît. Hein. Vous pouvez parler comme Jésus le faisait. Il a dit, ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi, et même des choses plus grandes. Vous parlez en son nom. Dans Marc chapitre 11, on va lire ça. Marc chapitre 11, verset 13. Non, verset 23, pardon. Marc chapitre 11, verset 23. C'est Jésus qui dit. Et il nous donne un secret là, mais qui fait ça? Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que vous avez un pouvoir par votre parole. Vous dites quelque chose, même à une montagne de soucis, une montagne d'adversité, une montagne n'importe quoi, à quelque chose de solide, d'énorme, de gros. Vous parlez à cette chose au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous ne doutez pas, vous allez voir la chose s'accomplir. Parce que vous avez un pouvoir dans ce que vous dites. Si vous dites et puis qu'après vous doutez, eh bien, plouf, il ne se passe rien. Et beaucoup de gens, c'est ça, ils ne persévèrent pas dans la foi, ils sont hypnotisés par le serpent, et ils se laissent avoir. C'est dommage, parce que nous avons été libérés de Satan, libérés des Amalécites, libérés de tous les ennemis, et nous parlons comme des surhommes. Nous parlons comme des surfemmes, des surhommes, nous sommes des surhommes. Nous sommes des supermen de Dieu. Vous me direz, mais Michel, qu'est-ce que tu commences à raconter des histoires bizarres? Je vous le dis en vérité, nous sommes des gens qui appartenons à une nouvelle race, à un autre royaume. Nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes une race élue. C'est ce que la Bible dit, un sacerdoce royal, nous avons de l'autorité, Dieu est notre garant. Hein? Alors on ose être hardi, pas Laurel, hein, mais hardi, fort. Nous parlons le langage de Dieu aussi facilement que les incroyants parlent de leurs craintes. Ça serait tellement merveilleux si les membres des églises voulaient bien accéder à la place que Dieu leur a donnée. Ah. Mais non, ils restent au fond sur un strapontin. Il faut que vous exprimiez comme Dieu veut que ses élus le fassent. Malheureusement, ils ne savent pas manier l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, ils ne s'y exercent pas. Vous avez vu les films sur les chevaliers? Hein? Ben, ils s'exerçaient, ils n'allaient pas au combat sans s'être exercés d'abord. Eh bien, nous les chrétiens, on s'exerce. Moi, je connais un pasteur, il disait, moi je veux des résurrections dans mon ministère, alors pour commencer, eh bien, je prie pour les oiseaux morts. Vous voyez, il s'exerçait, c'était sa façon de faire. Chacun, exercez-vous. Non, ils sont là à marmonner des prières pleines d'incrédulité et ils se font avoir. Quel gâchis, quel gâchis. Vous êtes une nouvelle créature, nous dit la Bible dans 2 Corinthiens 5, 17. Il n'y a rien depuis que Dieu a créé les cieux et la terre qui est plus fort que ce que Dieu a créé là en Jésus-Christ. Les nouvelles créatures que vous êtes, il n'y a rien de plus fort que les nouvelles créatures que Jésus-Christ, que vous êtes en Jésus-Christ. Vous êtes ce qu'il y a de plus fort au monde. Alors arrêtez de jouer aux faibles. Arrêtez d'être dans des traditions qui vous rendent faibles. Être une nouvelle créature, ça signifie pas que nous sommes seulement des pécheurs pardonnés, des pauvres membres d'église faibles et chancelants. Des pauvres membres d'église, mon Dieu. Ce matin, il y en a plein qui sont réunis là, qui écoutent le bon pasteur qui prêche, et puis vont sortir, et puis leur vie va être toujours la même, toujours pareille. Faut pas que ça soit comme ça. On n'est pas des chrétiens assis, chancelants, qui font que d'écouter un prédicateur, et puis ensuite on va vivre notre vie comme les païens, on vit comme les païens, sauf qu'on fume pas, qu'on saoule pas, qu'on vole pas, qu'on paye nos impôts, sauf qu'on est gentil. C'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est être un combattant contre l'ennemi. Jésus nous a mis sur cette terre pour combattre le diable. Il est venu, lui, pour détruire les œuvres du diable. Il a dit ce que j'ai fait, vous devez le faire aussi. On doit détruire les œuvres du diable. Mais c'est pas en regardant The Voice que vous allez détruire les œuvres du diable. Ça n'est pas interdit de regarder The Voice. Mais on dirait... Bon, j'arrête. Ça signifie que nous sommes maintenant des nouvelles créatures, des surhommes tels que Jésus était. On lit ça dans 1 Jean 4, 17. Je ne vais même pas vous le lire. Vous avez qu'à vous à le lire dans votre Bible. Vous avez une Bible. 1 Jean 4, 17. Vous n'avez pas de Bible? Achetez-en une. Vous ne voulez pas en acheter une? Restez dans l'ignorance et dans les ténèbres de votre religion et de votre incroyance. Faites comme vous voulez. Moi, ça m'est égal, hein? Ce que je vous dis, c'est pour votre bien. Vous n'en voulez pas? Que vous voulez que ça me fasse? Moi, je dis ce que j'ai à dire. Vous prenez ce que vous avez à prendre, c'est tout. Nous avons, ce que dit la Bible, la nature de Dieu. Nous avons sa vie, nous avons sa force, nous avons sa santé, nous avons sa gloire, nous avons sa puissance maintenant. Mais il faut le croire. On va lire Colossiens, chapitre 1, verset 13, 14. Colossiens 1, 13, 14. Il nous a délivrés, Jésus, hein, de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, c'est-à-dire de tout ce qui est mal, de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui est méchant, de tout ce qui est bête. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est-à-dire que nous avons un roi, Jésus, nous sommes sujets de ce roi, et nous sommes dans ce royaume, et nous nous battons contre... Adam et Ève, ils avaient un royaume, c'était le jardin d'Éden. Ils se sont pas battus, ils se sont fait avoir par le premier serpent qui est rentré là. Bande de nouilles! Vous voulez recommencer cette histoire? Vous avez été transporté dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire dans un nouveau paradis, dans un royaume qui est là sur cette terre, qui s'appelle l'Église de Jésus-Christ. Mais vous ne gardez rien du tout, et vous vous faites avoir par les premiers venus. Mais c'est quoi ce cirque? C'est quoi? J'ai lu une plaisanterie l'autre jour. Il dit, ah, c'est dommage qu'Adam et Ève n'étaient pas des Chinois, le serpent il l'aurait bouffé. L'ennemi, bouffez-le au nom de Jésus, détruisez-le. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et il nous a dit de faire la même chose que ce que lui a fait. Partout où il allait, il détruisait les œuvres du diable. Mais il allait. Il ne restait pas chez lui en attendant. Vous savez, il y a des commerçants, il y a deux sortes de commerçants. Il y a le commerçant qui a un magasin puis il attend le client. Puis il y a le commerçant qui va faire du porte-à-porte. Ben nous les chrétiens, on est ceux qui font du porte-à-porte, on n'attend pas l'ennemi, on va vers lui. Et on se bat, au nom de Jésus, avec amour, on se bat. Qu'est-ce que ça signifie ce texte que nous venons de lire? Eh bien, que la domination de Satan est finie. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière, nous sommes passés du royaume de Satan, des ténèbres à la lumière du royaume de Jésus. Sa domination sur nous est finie, c'est fini. C'est celle de Jésus qui a commencé pour vous, c'est la domination de Jésus qui a commencé sur vous. Et maintenant, c'est à vous de dominer en son nom. Comme c'était prévu au début. Au début, c'était prévu comme ça. Dans Genèse chapitre 1, Dieu avait dit à l'homme, voilà, et à la femme, dominer sur toute la terre. Puis après, ils ont chuté, Et ils ont abusé de leur pouvoir, ils ont fait beaucoup, beaucoup de mal à cette pauvre vieille terre. Mais maintenant, ce pouvoir nous est donné à nous. C'est à nous de dominer. Au moment où vous vous êtes repenti de vos péchés, cette domination de Satan sur votre vie a été brisée et c'est vous qui dominez comme c'était prévu au commencement. Je crois que c'est dans Genèse 1, 28 que c'est écrit ça. C'est ce que Dieu voulait, et bien c'est ce que Dieu a réalisé maintenant dans son peuple. Encore faut-il que son peuple arrête de ronfler. Un disciple de Jésus ne craint rien ni personne. Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, 10. Tu es mon serviteur, c'est Dieu qui parle. Je te choisis. C'est Dieu qui t'a choisi, c'est pas toi qui as choisi Dieu. Je te choisis et je ne te rejette pas. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus et couverts de honte, ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien, ils périront ceux qui se disputent contre toi. Ah, c'est pas une bonne nouvelle ça?
Oui, voilà.
Ce que je vous enseigne là, c'est la chose la plus révolutionnaire qui puisse être enseignée. Romains 8, 31 nous dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On va lire 1 Jean 4, 4. 1 Jean 4, 4. J'ai pas mal de lectures à vous faire, hein. 1 Jean 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, le prince de ce monde, c'est Satan. Et tous ces suppositoires, tous les suppos de Satan, toutes ces personnes méchantes, toutes ces personnes corrompues, toutes ces personnes qui vous accusent, toutes ces personnes désagréables, tout, vous les avez vaincus au nom de Jésus parce que Jésus qui vit en vous est plus grand que toutes ces machins. Vous voyez, mes frères et sœurs? Maintenant, vous allez au combat contre l'ennemi avec l'assurance de la victoire, parce que vous êtes déjà dans la victoire. Sa lumière, elle éclaire les problèmes de votre vie, afin que vous agissiez avec intelligence. Combien de fois dans la communauté nous avons quelques problèmes avec ceci, avec cela et tout? Mais on prie, on demande à Dieu, on lutte contre l'ennemi au nom de Jésus, et puis tout à coup il nous vient une idée, c'est extraordinaire, là, n'est-ce pas Michou, Stéphane, tous les autres, on a tout d'un coup, puis on peut agir avec intelligence. Jésus disait, qui il était? Dites qui vous êtes? Je suis le temple de Dieu, Christ vit en moi. Ah oui, alors ça, ce langage, ça va étonner vos ennemis et même vos amis, ça va les étonner, ça va leur paraître absurde et présomptueux, mais ils vont voir très vite la différence entre eux et vous. Est-ce que je raconte des bobards? Malachie, chapitre 3, dans Malachie, il n'est pas question que de la dîme, hein. Malachie, chapitre 3, versets 16 à 18. Attendez, 3, 16, 18. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, Dieu dit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux. Ce jour qu'il a préparé, c'est la venue de Jésus. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous verrez la différence. Ça doit se voir. Ça doit se voir. Amen. Nous devons démontrer ça. Que nous ne sommes pas comme tout le monde. Ah, ben non alors. À partir d'aujourd'hui, vous avancez avec le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu qui sort de votre bouche, vous parlez, vous osez affronter les évidences humaines qui contredisent la parole de Dieu et calmement vous déclarez que c'est la parole de Dieu qui a raison. Le médecin vous dit que vous êtes condamné. Ah, mais Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Vous dites le contraire. Vous dites ce que Dieu dit, pas ce que les évidences disent. Votre banquière vous dit, ah, vous êtes monsieur, madame, vous êtes trop à découvert, c'est nini, c'est gna gna et tout. Vous confessez la parole de Dieu. Vous dites, laissez-moi une semaine. Et vous allez voir. Vous allez sur Révélation Bible, première page en haut, faites un don. Celui qui donne à l'Éternel, Dieu l'enrichit, n'est-ce pas la vérité? Mais dites et faites ce que Dieu dit de faire et de dire. Mais si vous ne le faites pas, venez pas pleurnicher. Ah, mais je peux pas. Fais ce que Dieu dit, dis ce que Dieu dit, et tu seras dans la victoire. Dans Hébreux 3.1, Jésus est appelé le souverain sacrificateur de notre confession. Je déteste ces théologiens qui, chaque fois qu'ils traduisent la Bible, remettent encore ce mot « confession ». Le problème, c'est que les gens ne savent plus ce que ça veut dire « confession ». Le mot « confession » a deux significations. Vous trouvez ça dans tous les bons dictionnaires. Premièrement, ça veut dire « l'aveu de nos péchés ». Et deuxièmement, ça veut dire « déclaration que l'on fait ». Confession, ça veut dire « proclamation d'une croyance ». Ça, c'est dans le dictionnaire. Je ne l'invente pas, je l'ai trouvé dans un dictionnaire. J'ai tapé sur Google, j'ai tapé « confession, signification ». Et ça m'a donné ça. Et j'ai regardé dans mon dictionnaire Larousse, c'est pareil. Donc, ce verset de Hébreux 3.1 qui dit que Jésus-Christ est appelé le souverain sacrificateur de notre confession, eh bien, ça, en réalité, en français courant d'aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de ce que nous disons. Il est le souverain sacrificateur de ce que nous proclamons. Il est le souverain sacrificateur de ce que nous déclarons et que nous faisons. Dites ce qui est vrai, et Jésus va s'occuper de ce que vous dites. Il va le présenter devant son Père, parce qu'il est le souverain sacrificateur, et il apporte devant Dieu vos paroles comme un sacrifice agréable à Dieu. Proclamez que personne ni rien ne peut vous nuire, et Jésus va prendre ces paroles et les offrir en sacrifice. Le sacrifice de vos lèvres, il va les offrir à son Père, et le souverain sacrificateur va s'occuper de vous, et Dieu va s'occuper de vous. Et il prendra soin de vous selon sa promesse, selon ce que vous avez dit, parce que ces promesses, elles sont nulles si vous ne tenez pas compte. Lorsque nous proclamons ces paroles contre nos ennemis, quand on prononce les paroles de Dieu contre nos ennemis, alors notre souverain sacrificateur Jésus agit en notre faveur, en accord avec ce que nous avons déclaré. Et il intercède auprès de notre Père au sujet des promesses qu'il nous a données et que nous prenons au sérieux et que nous proclamons face aux difficultés. Il y a un autre texte, Hébreux 10, verset 23. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance ou de notre foi, ça dépend des versions, car celui qui a fait la promesse est fidèle. J'en veux aux théologiens qui remettent toujours ce mot « profession ». Retenons fermement la profession de notre foi ou de notre espérance. Parce que les gens ne savent plus ce que ça veut dire « professer ». Autrefois, on savait ce que ça voulait dire « professer ». Parce qu'on parlait un bon français. Aujourd'hui, c'est plus du bon français qu'on parle, c'est du gna gna gna. LOL, PTRR, GNA, Z, blablabla. Vous avez vu? Les gens parlent, on dirait qu'on redescend. Ah oui, on descend pas du singe, mais on y remonte. Hein. Parlons français. Professer. Qu'est-ce que ça signifie professer? Le dictionnaire nous dit professer, ça signifie déclarer hautement un sentiment, une croyance. Alors, voilà ce que signifie Hébreux 10, 23. Ça signifie retenons fermement ce que nous avons dit. Ce que nous avons déclaré au sujet de notre foi. Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Si nous déclarons ce qu'il a dit et que nous restons fermes là-dessus, sans douter, alors il est le souverain sacrificateur qui va le faire, qui va agir en notre faveur d'une façon fidèle, parce qu'il est fidèle. Vous voyez ? Vous avez dit, vous avez déclaré, je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ dans la situation qui est la mienne. Vous l'avez déclaré, retenez fermement cette déclaration de foi. Ne revenez pas en arrière en confessant d'autres choses. Ne doutez pas de ce que Dieu, de ce que vous avez dit. Vous vous rappelez le verset ? Si tu dis à cette montagne, jette-toi de là à là, elle le fera et vous verrez que ce que vous avez dit s'accomplit. Mais si vous dites à cette montagne, jette-toi de là à là, puis qu'après vous dites, oui, j'ai dit ça, mais en fait, elle ne bouge pas, hein, le problème est toujours là, la difficulté est toujours là, bon, ben, je prends un avocat, je vais essayer de me défendre autrement. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous n'êtes pas en train de retenir fermement votre déclaration de foi? Ce que vous avez proclamé? Vous doutez de ce que vous avez proclamé? Oh, c'est sûr que le problème, il va rester là. Vous comprenez? Ne revenez pas en arrière. Vous le verrez s'accomplir. Ça peut prendre un peu de temps des fois. Nous, ça a pris 3 ans. Mais j'avais prophétisé que ça prendrait 3 ans. On a quitté le château, Bichou et moi, le 18 juin 2014. Non, 2016. Le 18 juin 2016. Et j'ai dit, dans 3 ans, c'est fini. 3 ans après, on reçoit un coup de téléphone, le 18 juin 2019, de notre notaire qui nous dit, ça y est, j'ai trouvé un acquéreur pour votre château. 3 ans, jour pour jour! 3 ans, jour pour jour! Et vous écoutez Claude Inierski vous faire des dates et des machins et des trucs, c'est pas un vrai prophète. Un vrai prophète, ce qu'il dit, ça arrive! Jour pour jour! Le faux prophète qui avait dit des horreurs sur nous, c'était le 24 juin 2014. Quel jour avant... Pardon ? Le 27 juin, pardon. Le 27 juin 2014, il a prononcé des horreurs sur nous, en disant « Ainsi dit le Seigneur ah. ». Eh bien, le 27 juin 2019, nous étions chez le notaire pour signer la vente du château. Vous voyez, mes frères et sœurs, comment ça se passe avec Dieu? Dieu compte les jours. Ça peut prendre un peu de temps pour que la montagne se déplace, mais elle se déplacera toujours. Mais il faut que vous disiez ce qui est vrai. Si vous reprenez, parce que tous les mercredis, nous avons une réunion de prière, et j'écris vos messages que je donne à mes frères et sœurs, si vous reprenez les textes que j'ai pris et que je vous ai enseignés pendant tout ce temps-là, ça va toujours dans ce sens-là. Nous avons dit que ce château se vendrait et il s'est vendu. L'autre là-haut, il disait « ça ne se vendra jamais, ainsi dit le Seigneur, parce que des milliers d'âmes vont venir au portail, ça ne s'est pas accompli. Choisissez votre prophète !» Oh, mais... Bon, faites comme vous voulez, hein. Restez fermement dans la déclaration de la foi. Restez fermement dans ce que vous avez déclaré. Ne doutez pas, ne revenez pas en arrière. Vous voyez le pouvoir que vous avez quand vous parlez? Dites les paroles de Dieu. Dites ce que Dieu dit. Et après l'avoir dit, ne doutez pas et vous le verrez s'accomplir. Avant de quitter le château, on a dit ce qu'on voulait. On en a parlé entre nous dans notre chambre, qui faisait aussi salle à manger. On a dit, et Eric Jacques a écrit tout, votre papa. J'ai encore la liste. Eh bien, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'il a écrit, on a tout, sauf une chose. Vous savez ce qu'on n'a pas? Un garage. Mais on s'en fout, on a la place pour le faire, on a l'argent pour le construire. Amen. On a tout, gloire à Dieu, ce qu'on a dit. Ce qu'on a déclaré, on n'est pas revenu dessus. Et on l'a au nom de Jésus. Et on marche dedans. On marche dedans. On est dedans. On est dedans. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et les gens qui viennent ici disent « Ah, qu'est-ce que c'est beau !» Et ceux qui ont connu le château avant, ils disent « Ah, mais vous êtes mieux ici qu'au château !» Mais évidemment, Dieu nous donne jamais moins qu'avant, il nous donne toujours mieux qu'avant. Encore faut-il dire ce qu'il dit et rester sur la déclaration que nous avons faite jusqu'à ce qu'on voie la chose s'accomplir. Amen. Le garage, on va le faire. C'est pas un problème. Je crois qu'il faudra que je revienne donc sur ce septième nom de Dieu, la victoire, Jéhovah Nissi, Jéhovah notre victoire. Je sais que le peuple de France en a vraiment besoin, et le peuple chrétien en a vraiment besoin, et je vais revenir dessus. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là, je crois que j'ai déjà été un petit peu long. J'ai déjà parlé, oulala, oui, j'ai parlé 50 minutes, Seigneur Jésus, pardonne-moi, je suis trop long. Mon Dieu, je te prie de bénir mes frères et sœurs qui ont eu la patience de m'écouter, et je te prie qu'ils aient l'intelligence spirituelle pour agir selon ta parole. Je te le demande dans le nom de Jésus, afin qu'ils sortent de leurs difficultés. Au nom de Jésus, j'ai prié, Père. Amen. Amen. Au revoir.